France Inter. Le 18-20. Claire Servagent.
Au téléphone sonne ce soir, question sur la condition animale. On en parle à l'occasion de l'examen par le Parlement d'un texte qui, s'il était adopté, constituerait de l'avis général un premier pas et même une véritable avancée. Ce texte, c'est la proposition de loi relative à l'amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance. Elle a été largement adoptée par les députés en janvier dernier, sévèrement édulcorée par les sénateurs début octobre, mais la semaine dernière, surprise, les parlementaires des deux chambres se sont mis d'accord en commission mixte paritaire sur un texte qui pourrait bien être définitivement adopté avant la fin de l'année. Est-ce la proximité de la présidentielle qui a conduit à ce consensus? On peut le penser, d'autant que les Français sont de plus en plus sensibles à la cause animale. Les Français champions d'Europe des animaux de compagnie, paraît-il, mais aussi des abandons. D'où l'utilité de ce texte dont nous allons détailler les dispositions, car elles sont nombreuses. Cela va de la mise en place d'un certificat de connaissance pour les animaux de compagnie à l'interdiction de la vente des chats et des chiens en animalerie. Le texte prévoit également la fin des espèces sauvages dans les cirques. Pour nous éclairer, celui qui porte ce texte depuis le début. Bonsoir Loïc Dombreval.
Bonsoir.
Député des Alpes-Maritimes, merci d'être avec nous dans ce studio. À distance, mais bien présente, Muriel Arnal. Bonsoir.
Bonsoir.
Présidente fondatrice de l'association One Voice. Je précise que nous serons aussi en ligne au cours de cette émission avec un représentant du monde du cirque, en l'occurrence William Kerwich, président du syndicat français des capacitaires d'animaux de cirque et de spectacle. Et puis comme toujours, eh bien, on compte avant tout sur vos appels, car cette émission est avant tout la vôtre.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, direction le Cantal, c'est Luc qui est au bout du fil. Bonsoir Luc.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci.
Vous souhaitiez parler des chats, des chiens?
Oui, absolument. Je dirige un syndicat d'animalerie et je regrette que le député Dombreval n'ait pas daigné nous recevoir lorsqu'il y a eu la discussion de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Et je voulais savoir comment feront à l'avenir les citadins pour acquérir un chat ou un chien. Je ne crois pas savoir que les animaleries qui sont régulièrement contrôlées par les services vétérinaires sont un lieu de maltraitance des animaux. Je m'étonne d'ailleurs que dans cette proposition de loi, il ne soit question ni de chasse, ni de corrida, ni d'abattage rituel. Et les refuges qui reçoivent les animaux qui sont gérés par des associations de protection animale ne sont pas des exemples recommandables. Et j'ai d'ailleurs fait condamner à plusieurs reprises des refuges qui accueillaient des animaux dans des conditions lamentables.
Merci Luc, il y a beaucoup de choses dans votre question. Si vous le voulez bien, on parlera tout à l'heure de ce qu'il n'y a pas dans cette proposition de loi. On va commencer par parler de ce qu'il y a dans cette proposition. Loïc Dombreval, vous êtes directement interpellé par Luc qui s'occupe d'un syndicat d'animalerie. Votre proposition prévoit donc l'interdiction de la vente des chiots et des chatons en animalerie. On est d'accord là-dessus? Et pour quelle raison?
Oui, j'ai juste une précision. J'ai reçu de nombreux acteurs, notamment dans le cadre d'une mission gouvernementale qui m'avait été confiée en 2020, surtout les questions qui ont trait à l'abandon d'animal de compagnie. À cette occasion, j'avais rencontré l'ensemble des syndicats représentant les animaleries, ou en tout cas les principaux. Premier point. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cesser la vente de chiens et de chats d'animalerie? Première chose, ce n'est absolument pas original. Je rappelle que des États américains, les Anglais, les Belges, les Suisses, les Autrichiens et d'autres pays européens ont déjà depuis longtemps interdit la présence de ces animaux en animalerie. Pourquoi? Deux raisons. Première question, première raison, on a la présentation d'animaux derrière des vitrines. Comme des choses, comme des objets. C'est pour nous, députés qui travaillons sur ces questions, et pour tous ceux, les pays qui ont voté pour cette interdiction, c'est pour nous quelque chose qui est incompatible avec ce qu'est un être vivant. Un être vivant n'est pas un objet, un jouet que l'on présente derrière des vitrines. Ça, c'est un point qui est un point essentiel, qui est presque peut-être probablement symbolique pour certains. Mais...
Deuxième aspect. Donc, il y aura cette interdiction, Loïc Dombreval, si la loi est votée, et a priori elle le sera.
Oui.
Et il y aura un délai avant que ce soit mis en pratique?
2 ans. Et par contre, ce que je tiens à dire quand même, c'est qu'on pourra continuer à acquérir des chiens et des chats en animalerie provenant exclusivement de refuges de protection animale.
Parce que c'est ce que j'allais vous demander, comment on fait alors si on...
Voilà, ça
on
c'est la loi.
D'avoir un petit chat chez soi.
C'est la façon d'ailleurs avec laquelle les Californiens, par exemple, ont permis cette, d'augmenter les chances d'adoption des animaux présents en refuge. C'est une très bonne mesure. Comment on va acheter un chien ou un chat? Eh bien, on aura affaire à des éleveurs amateurs ou des éleveurs professionnels. On pourra acquérir toujours ces animaux sur Internet avec des modalités qui sont extrêmement restrictives, qu'on a restreint dans la loi, parce que sur Internet, il y a également un gros problème. Donc on va également cadrer ça de façon très étroite. Et puis, deuxième aspect quand même sur la vente en animalerie, c'est ces achats d'impulsion. C'est-à-dire que moi, j'ai vu de mes yeux, et je ne suis pas le seul, des parents avec des enfants passant devant ces vitrines et craquant pour le chien ou le chat tellement mignon, tellement adorable. C'est vrai qu'ils le sont. Et derrière, on acquiert un animal qui n'est pas forcément adapté à son mode de vie, à son budget, à la taille de son logement, et à plein de choses comme cela. Et derrière, ce sont des abandons. Et ça, ça a été objectivé également.
Voilà, pour vous pensez que le fait de voir un animal derrière une vitre, ça favorise ce type d'achat compulsif?
Ah, c'est absolument certain. Quand on voit en particulier la façon avec laquelle ces animaux sont présentés derrière ces vitrines, sur la rue, donnant sur la rue souvent, eh bien, oui, on le sait, ces achats d'impulsion sont extrêmement fréquents avec des achats qui sont parfois irraisonnés. Dernier point, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même dans des animaleries privées, pas forcément dans les chaînes d'animalerie, mais dans les animaleries de plus petite taille, qui ne sont pas dans des chaînes, que l'on observe aussi des trafics. Je ne dis pas que c'est une généralité, loin de là. Mais ce sont dans ces animaleries que l'on observe ces trafics avec des chiens et des chiots et des chatons venant non sevrés d'Europe de l'Est. Il y a encore deux cas qui sont traités dans les Alpes-Maritimes en ce moment. Donc, ça n'est pas une vue de l'esprit. Et encore une fois, je veux dire, cette mesure n'est pas originale. Elle était prévue. D'ailleurs, des chaînes d'animalerie ont déjà anticipé depuis longtemps le fait qu'un jour cela arriverait. Et la plus grande chaîne d'animalerie française, qui est d'origine allemande, a décidé déjà il y a plusieurs années d'arrêter la vente de chiens et de chats dans ces magasins. Donc, vous voyez, c'est le sens de l'histoire, au fond. Il faut s'y adapter. C'est pas simple. On a un petit peu de temps pour cela, mais il faut s'y adapter.
Alors, plus de chiens et de chats en animalerie. Pour les autres animaux, ça pourra continuer?
Alors, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, qui sont effectivement les poissons, les oiseaux, les petits rongeurs, ceux-là pourront continuer à être vendus dans des animaleries. Mais je suis absolument certain que, là encore, toute forme de vente d'êtres vivants dans des points de vente, dans des commerces, dans des magasins, un jour, à terme, je ne sais pas exactement quand, eh bien cela prendra fin.
Muriel Arnal, présidente fondatrice de l'association One Voice, sur cette question de l'interdiction de la vente des chiots et des chatons en animalerie, ça faisait partie de vos revendications ?
Absolument, c'est fondamental. Il ne faut pas chosifier les animaux et ça y participait grandement. Je tiens à dire que Loïc Dombreval a fait un énorme travail. Il a auditionné énormément d'associations, de partenaires et il a tenu bon face au lobby et ça n'est pas simple. Donc c'est une avancée et il faut la saluer absolument. En plus, pour les chiots et les chatons, grandir dans ce contexte ne favorise absolument pas leur développement. Ils sont sous des lumières, ils sont dans des bocaux en fait et c'est à cet âge-là qu'ils ont besoin de découvrir le monde et d'être accompagné. Donc en plus, on se trouve avec des animaux qui ont énormément de troubles du comportement. Nous avons enquêté dans les pays de l'Est et sur tous les réseaux de trafiquants et toutes ces formes de vente favorisent les trafics en effet.
Alors Loïc Dombreval, on entendait tout à l'heure Luc qui nous disait pourquoi certains aspects ne sont pas dans cette proposition de loi que vous avez préparée. Hugues, qui est à Béziers, a également une question concernant ce qui n'est pas dans votre proposition de loi. Bonsoir Hugues.
Bonsoir.
Bienvenue sur Inter.
Oui, je me demandais si c'était pour des raisons électorales que la corrida et la chasse à courre ne figurent pas dans cette loi. On a l'impression qu'on a préservé, d'une part, toute une région, toute une population qui vote, et d'autre part, une classe sociale un peu élitiste et désuète.
Merci beaucoup, Hugues, pour cette question. Loïc Dombreval, alors sur tout ce qui n'est pas dans votre loi, tout d'abord et après sur les raisons qu'invoque Hugues.
Les sujets qui touchent à l'animal sont infinis, ils sont immenses.
Il a fallu commencer par le commencement, c'est ça ?
Et il fallait commencer par le commencement. Parce qu'il y a un certain nombre de sujets, je le regrette, mais qui ne sont pas encore mûrs. au sein des hémicycles du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et quand on parle de chasse, quand on parle d'élevage, quand on parle de corrida, eh bien, on voit bien que ces sujets déclenchent des passions absolument terribles entre les parlementaires et ne permettent pas de s'assurer de majorité permettant de voter la loi. Et donc, moi, j'ai toujours prôné l'idée qu'il fallait déjà commencer par avancer sur les sujets sur lesquels on était sûr d'avancer, de pouvoir avancer. Je regrette, encore une fois, que ces aspects-là ne soient pas encore présents. Ma position sur la corrida est extrêmement claire. Ma position sur la chasse à cour également.
Alors, dites-nous, au passage...
Sur la corrida, c'est absolument incompréhensible. Si vous voulez, la corrida, c'est un acte de cruauté, de maltraitance et de cruauté vis-à-vis d'un animal. C'est passible de prison d'une amende extrêmement importante dans tous les départements français, sauf 10. C'est absolument incompréhensible. D'ailleurs, je maltraite un taureau en Bretagne, je prends une amende et je vais en prison éventuellement. Je fais la même chose dans le Gard, il m'arrive rien. Enfin, quel est le sens de cette loi ? Cette loi n'a pas de sens. Et donc je suis convaincu que un jour ou l'autre aussi, quand les choses auront évolué au sein de la société, on verra également l'interdiction de cette corrida qui pointe, et on le voit bien. Sur les raisons électoralistes, je suis pas du tout convaincu de ce que dit votre auditeur. En réalité, quand on regarde dans le détail, on se rend bien compte qu'il y a une immense majorité de Français qui sont opposés à la corrida, qui sont contre la maltraitance des animaux, qui veulent qu'on les traite mieux, et qui sont aussi également opposés à la chasse à cour ou à d'autres types de chasse qui sont des chasses cruelles. Donc en fait, je pense qu'il y a, ce sont des sondages réguliers, fréquents, qui montrent que cette attention portée à l'animal ne fait que croître, et c'est une bonne chose. Et donc, c'est le sens de l'histoire, encore une fois, et un jour, on verra ces chasses et cette corrida interdites dans notre pays. C'est une bonne chose.
Vous nous dites, Luc Dombreval, chaque chose en son temps. En gros, ça évolue lentement mais sûrement. C'est vous qui avez porté ce texte. Je crois qu'on vous surnomme même le député des animaux. Oui. Je disais tout à l'heure, l'Assemblée a voté largement en janvier dernier. Le Sénat a retoqué pas mal de mesures au début du mois d'octobre. Et puis, la semaine dernière... Incroyable mais vrai, d'un seul coup, commission mixte paritaire, les deux chambres se mettent d'accord. Il s'est passé quoi en 3 semaines pour que le Sénat change d'avis comme ça ?
Il s'est passé, je pense, première chose, peut-être une prise de conscience à ses dépens, aux dépens du Sénat, de l'aspect éruptif que pouvait avoir et tellement émotionnel et passionnel que pouvait avoir ces sujets dans l'opinion. Je crois que après la première lecture au Sénat, il y a eu des retombées médiatiques sur les réseaux sociaux qui étaient assez désastreuse pour le Sénat. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il y a eu une forme de soubresaut, là, d'électrochoc. Ensuite, il y a eu un gros travail qui a été fait par mes collègues et moi-même pour travailler avec les sénateurs pour faire en sorte que le texte évolue. Et donc, ça a été une négociation sur laquelle on a perdu des choses et puis regagner les choses qu'on avait déjà votées à l'Assemblée. Donc tout ça fait que, au fond, ce sujet qui est un sujet, on sait que les majorités sont pas les mêmes, c'est LR au Sénat et c'est En Marche à l'Assemblée nationale, eh bien moi je suis heureux de voir qu'on est capable, sur des sujets transpartisans comme cela, sur des sujets humanistes, de société, on est capable de s'entendre au-delà de nos clivages politiques, au-delà des étiquettes, et je pense que c'est plutôt une bonne image de la politique qu'on se soit mis d'accord.
Cela dit, c'est pas tout à fait terminé. Là, c'est la commission mixte paritaire qui a fait un texte de consensus, mais il faut encore que ça repasse devant l'Assemblée et devant le Sénat.
Tout à fait,
ça repasse. Le calendrier parlementaire est chargé. Oui. Vous pensez que ça va passer malgré tout ?
Ah, ça y est, on a une date en novembre pour l'Assemblée, ça sera le 16 novembre, et une date au Sénat, semaine du 13 décembre, donc le texte aura voté d'ici la fin de l'année 2021.
Vous êtes confiant ?
Très confiant.
Et vous vous dites que de toute façon, la majorité a intérêt à ce que ce texte soit adopté à quelques mois des élections.
Bien sûr, non mais bien sûr. Sur ce sujet, je devrais être très clair. Moi, ce qui m'importe, c'est que le sujet avance. Les motivations des uns et des autres à travailler dans ce sens et à améliorer la condition des animaux. Ce sont leurs motivations, je ne peux pas obliger tout le monde à aimer les animaux. L'important c'est qu'à la fin, je suis extrêmement concret, c'est que les choses aient avancé, et elles auront singulièrement, significativement avancé pendant cette législature, ce dont je me réjouis.
Alors j'en reviens un instant à ce que nous disait Hugues tout à l'heure, parce que Muriel Arnal n'a pas réagi à ce qui manquait dans cette loi. Muriel Arnal, on a parlé de la corrida, il y a aussi la chasse à cour qui était évoquée du côté des associations. Vous dites, comme Loïc Dombreval, chaque chose en son temps, c'est déjà un premier pas ?
Nous disons que, par exemple, nous luttons contre les tests cosmétiques, toutes les expériences faites en laboratoire, les tests cosmétiques vont reprendre, ça n'est pas évoqué non plus, mais malheureusement, quand on veut faire les choses bien, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est le problème. Mais moi, je suis confiante parce qu'il y a, par ailleurs, des propositions de loi sur ces thématiques qui viendront à un moment. Et c'est ça qui compte aussi. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on en parle de la cause animale et qu'on parle de la souffrance des animaux et de cette exploitation. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça se passe au niveau mondial et je suis heureuse que ça se passe en France aussi parce que jusqu'à présent, nous étions extrêmement à la traîne des autres pays européens.
Merci Muriel Arnal. On a une question qui nous vient de la Meuse concernant les animaux sauvages. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Patrice.
Bah écoutez, j'avais deux questions bien distinctes, hein, bien précises. Je voudrais savoir quelles seront les mesures de protection des animaux sauvages dans la nouvelle loi. Parce que, ça a déjà été dit sur votre antenne, on peut torturer impunément n'importe quel animal sauvage, ce qui est complètement scandaleux. Comme vous l'avez souligné, ça se fait régulièrement avec la tauromachie, avec tous ces aficionados qui frôlent l'orgasme en voyant le sang couler. Mais qu'en est-il par rapport aux animaux sauvages? Première question, s'il vous plaît.
Alors, on va répondre effectivement dans l'ordre sur les espèces sauvages, Loïc Dombreval. Que prévoit votre proposition de loi?
Oui, non, mais là encore, pour éclairer vos auditeurs, quelque chose d'absolument inconcevable, incompréhensible pour un Française, une Française ou un Français, c'est que si vous coupez en deux le chien de votre voisin, vous êtes condamné pour acte de cruauté. Si vous coupez en deux un sanglier ou un chevreuil vivant, il ne vous arrive rien. C'est ça le droit tel qu'il est aujourd'hui pour la faune sauvage en liberté. C'est inconcevable. Et donc la question qui est posée est une question extrêmement intéressante, qui est une question de droit, qui d'ailleurs va être traitée prochainement par mon ami Louis Schweitzer, président de la LFDA, une fondation qui fait un travail remarquable. C'est un colloque qui se tiendra bientôt à Paris. Comment faire évoluer le droit? Comment faire évoluer le statut juridique de l'animal en liberté qui n'appartient à personne? On dit res nullius. Ça, c'est une question extrêmement intéressante, qui aurait des implications très fortes sur la chasse, par exemple, et sur plein d'autres activités en lien avec la faune sauvage. C'est une question sur laquelle il va falloir qu'on avance. Votre auditeur a parfaitement raison et bien renseigné. Et c'est un sujet sur lequel la loi aujourd'hui, notre loi sur la maltraitance dont on parle aujourd'hui, n'a pas traité. On a traité de la faune sauvage en captivité.
Alors voilà, on y vient, notamment dans les cirques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les dispositions qui sont prévues?
Oui, eh bien, sur les cirques, il va y avoir une interdiction de la présence de faune sauvage dans ces cirques d'ici 7 ans. Je parle de la faune sauvage en captivité dans les cirques et dans les cirques itinérants. Dans les cirques itinérants, il existe des cirques qui se sont sédentarisés, et auquel cas, la loi ne s'applique pas à eux. Là, on parle des animaux qui sont transportés dans les camions, etc. Premier point. Ils seront, ces animaux, interdits de reproduction et interdits d'acquisition d'ici 2 ans. Hein, pour pas que le stock, entre guillemets, c'est un vilain terme, d'animaux se augmente avant les 7 ans d'interdiction définitive.
Alors on parlera dans un instant des cétacés, Loïc Dombreval, mais je voudrais évidemment qu'on ait une réaction du monde du cirque. Il se trouve que William Kerwich, président du syndicat français des capacités en animaux de cirque et de spectacle, est en ligne. Bonsoir monsieur Kerwich.
Bon.
Vous êtes... Oui, je vous entends pas très bien.
Oui,
c'est bon.
Voilà.
Évidemment, vous contestez les dispositions de cette proposition de loi.
Déjà, on est très inquiet par rapport à cette loi. Et puis, elle est très arbitraire et infondée. Arbitraire parce que, on tape sur les cirques en priorité. Peut-être nous, les plus faciles. Hein, et comme le monsieur disait avant, on s'occupe pas de la corrida, comme monsieur de Montval disait. La souffrance des animaux. Ce qui me dérange de ce que j'écoute depuis tout à l'heure, c'est que monsieur Loïc Dombreval, madame Arnal, se met dans la position des personnes qui aiment les animaux et que nous, il faudrait qu'on s'apprenne à les aimer. Alors nous, chez nous, on aime nos animaux, il n'y a pas de souci, on est très attachés, c'est pour ça qu'on est inquiets. On est inquiet par rapport à cette loi, parce que qu'en vont devenir de ces animaux, qu'en vont devenir ces professionnels diplômés d'État, qui sont les capacitaires des hommes et des femmes, je ne parle même pas des entreprises, donc c'est un vrai arrachement des animaux qui va avoir lieu, parce qu'aujourd'hui, aucune commune, dès aujourd'hui, hein, pas dans demain, dès aujourd'hui, aucune commune en France veut accueillir des cirques par rapport à ce qui s'est passé dans la manipulation de l'opinion publique, et des animaux domestiques. Donc en France, il y a 800 animaux de la faune sauvage captive, qu'il va falloir placer dans les sanctuaires que nous ne voulons pas donner, parce que dans ce projet de loi, on n'a pas parlé de l'affection de nos animaux, le préjudice affectif. Ces animaux sont aussi sensibles que nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer de ces animaux?
On va déjà peut-être poser cette question-là à Loïc Dombreval, William Kerwitch. Que vont devenir ces animaux? Et est-ce que vous comprenez l'attachement, le fait qu'on puisse aimer un animal en captivité?
Mais bien sûr. Mais Monsieur Kerwitch me connaît, j'ai échangé aussi régulièrement avec les circassiens, et je leur ai toujours dit que j'avais le plus grand respect pour leur activité, que simplement que le cirque c'était pas uniquement la faune sauvage, c'est aussi tous ces spectacles que l'on aime. J'ai vu que Bouglione d'ailleurs faisait un spectacle à Paris au cirque d'hiver là, avec des jongleurs, des magiciens, des clowns. C'est ça aussi, ça le trapézie, c'est ça aussi le cirque qu'on aime. La mesure qui a été prise, les circassiens s'y attendaient en vrai. Pourquoi ils s'y attendaient? Parce que de nombreux pays européens, plusieurs dizaines, ont déjà arrêté la présence de faune sauvage dans ces cirques. C'est encore une fois le sens de l'histoire. Il va y avoir un délai de 7 ans. Et évidemment, et c'est ce que j'ai toujours dit, le bien-être des animaux, il ne doit pas se faire au détriment du bien-être des hommes. Et bien sûr que M. Kerwitch et ses collègues sont inquiets, et je le comprends parfaitement. Et bien sûr que l'État doit prendre toute sa part de responsabilité, doit accompagner économiquement, financièrement, socialement, et également le placement des animaux.
Alors justement,
c'est absolument
où vont-ils aller ces animaux?
Ces animaux, ils ont déjà commencé à aller. Ils ont déjà commencé à être emmenés dans des refuges et des sanctuaires. C'est ça la réalité aussi qu'il faut dire. C'est-à-dire que les circassiens se sont bien rendu compte qu'il y avait là un mouvement de société qui me dépasse largement. Il faut dire les choses comme elles sont. Je suis pas le diable qui veut la mort des cirques. Ce n'est pas ça. C'est un mouvement de société. Moi, je suis élu, comme mes collègues députés, pour écouter ce que dit la société et pour mettre en place des mesures qui correspondent à ses attentes. Voilà. Deuxième point sur l'affection que les circassiens ont sur leurs animaux. J'en doute pas une seule seconde. Je n'en doute pas une seule seconde. Je dis juste qu'aujourd'hui, ces spectacles mettent dans des conditions des animaux qui ne sont pas des conditions correspondant à leurs impératifs biologiques, comme on dit, pour utiliser un terme savant. Ces animaux ne peuvent pas, et on le voit souvent sur leur comportement, exprimer leur biologie naturelle et montrer des comportements qui montrent qu'ils sont heureux.
On va laisser répondre à son tour William Kerwitch pour une dernière intervention sur ce que vient de vous dire Loïc Dombreval.
Mais déjà, il n'a pas répondu à ma question. Nous, aujourd'hui en France, la ville de Paris, la ville de Bordeaux, de Marseille, Montpellier, ne veut plus d'animaux, même domestiques, dans les cirques. Donc c'est pas dans 7 ans la question, c'est demain. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va subvenir aux besoins de nos familles et nos animaux correctement par rapport à cette loi qui est infondée?
William Kerwitch, vous n'imaginez pas le cirque autrement qu'avec des animaux?
Imaginez, là, c'est une sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Il n'y a aucune commune en France qui veut accueillir des cirques traditionnels, même avec des animaux domestiques. Donc il y a 800 animaux de la faune sauvage captive. En France, il y a peut-être plus de 5000 animaux dans les cirques. Je travaille avec le ministère de l'écologie depuis 2018 avec Monsieur de Rugy. Monsieur Loïc Dombreval, on l'avait rencontré, il était venu soutenir les associations sur des réunions face aux associations animales, et ce jour-là, ils n'étaient pas venus, ils avaient laissé des sièges vides parce qu'ils voulaient pas débattre.
On ne va pas refaire tout l'historique, pardonnez-moi, William Kerwitch, juste sur ce point-là, Loïc Dombreval, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre sur les villes qui refusent d'accueillir les cirques?
Premièrement, la loi ne parle pas de la faune domestique, des animaux domestiques. Il y a des grands cirques avec des animaux domestiques et uniquement des animaux domestiques, ceux-là ne sont pas concernés par la loi. Que les communes prennent des dispositions contre ces cirques-là, et dès aujourd'hui, ou contre les cirques avec animaux sauvages dès aujourd'hui, effectivement pose un problème. Mais il faut aussi que M. Kerwitch dise qu'il y en a déjà 400 des communes qui ont pris des arrêtés depuis longtemps, bien avant la loi, pour interdire la présence de faune. Moi-même, quand j'étais maire, j'ai reçu pendant une heure et demie le président du syndicat des cirques dans ma commune de Vence pour expliquer les raisons pour lesquelles on mettait fin à la présence de ces cirques dans les communes. Par contre, M. Kerwitch l'a bien dit, les circassiens sont en contact quasiment quotidiennement avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, avec l'environnement, et bien sûr que s'il y a dès à présent des mesures qui sont prises par les mairies contre les circassiens, il va falloir en tenir compte de façon urgente. Il n'y a aucune question qui doit se poser là-dessus.
Voilà, on va peut-être clore à ce niveau-là. Monsieur Kerwitch, merci beaucoup pour cette intervention sur l'antenne de France Inter. On a bien compris qu'effectivement, on n'allait pas vous mettre d'accord tous les deux ce soir sur la question des espèces sauvages. Muriel Arnal, hein, un petit mot de la part de la présidente fondatrice de l'association One Voice.
Ça fait plus de 20 ans que nous avons lancé la campagne pour des cirques sans animaux. Et à l'époque, il y avait trois fois le nombre de cirques.
Je crois qu'on vous a perdu, Muriel Arnal. On va certainement vous retrouver dans un instant. J'en profite, Loïc Dombreval, pour aborder le deuxième aspect concernant les espèces sauvages, les cétacés, les dauphins, oui. Les delphinariums, terminés.
Oui, terminés dans 5 ans. Sauf, terminé dans 5 ans, reproduction et acquisition incluse, spectacle terminé également, un délai de 5 ans. Il y a deux delphinariums en France, un en Loire-Atlantique, un dans les Alpes-Maritimes, Planète Sauvage Marine Land pour pas les citer. Et là encore, accompagnement économique, social, financier, pour faire en sorte que les choses se passent bien. Si vous voulez, on est dans une époque où la biodiversité s'effondre, où notre relation à la faune sauvage, à la nature, est tellement aujourd'hui délétère qu'on perd 60% de biodiversité. Est-ce que le spectacle d'un animal sauvage dans un bassin, est-ce que le spectacle d'un animal sauvage dans une cage est un spectacle pédagogique pour les enfants, pour leur dire regarde comment respecter cette nature qui est si importante pour nous et pour notre survie? Je ne crois pas. Typiquement sur les delphinariums, c'est la même chose.
On a retrouvé Muriel Arnal. On vous avait perdu, mais vous souhaitiez réagir sur la question des espèces sauvages.
Oui, absolument. Les deux tiers des cirques ont cessé d'utiliser des animaux sauvages parce que les gens ne vont plus à ces cirques. Donc, de toute façon, ils ont dû s'adapter. Ce que je regrette, c'est que pendant les confinements, les cirques ont touché énormément de subventions par rapport aux animaux qu'ils détenaient, sans avoir un accompagnement pour cesser cette exploitation. Et quand on parle de lien d'attachement des animaux aux circassiens et aux dresseurs, c'est un ressenti, mais ce ne sont pas les données scientifiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que c'est une souffrance pour les animaux d'être dans les cirques. On sait qu'il est impossible pour les autorités, notamment les services vétérinaires, de faire des contrôles corrects parce qu'ils n'ont pas la formation. Il y a un seul agent spécialisé en France sur cette question-là. Vont-ils endormir les animaux, les anesthésier pour les ausculter? Absolument pas. On sait aussi que certains circassiens élèvent les lionceaux et les tigreaux pour des trafics, pour la taxidermie, pour finir empaillés. Il y a tous ces marchés parallèles. Nous avons sauvé des animaux en 2020 pour des raisons de mauvais traitement des lions et des tigres qui étaient détenus dans des conditions absolument catastrophique. Donc, il y a une réalité, il faut accompagner les cirques dans le sens de la société, mais c'est vrai que 23 pays en Europe ont légiféré sur la question, il est temps que la France le fasse aussi en accompagnant les cirques et les dresseurs.
Merci beaucoup Muriel Arnal et on est ravis de vous avoir retrouvé. Nous allons partir dans le Jura à présent. Bonsoir Gérard.
Bonsoir, merci de prendre ma question.
Je vous en prie, allez-y.
Oui, alors il y a une question qui ne me semble pas avoir été abordée. Bon, moi je vis à la campagne, je suis d'origine paysanne comme bon nombre français, et j'aime beaucoup les animaux avec ce que ça comporte comme de responsabilité, n'est-ce pas? Or, la question qui ne me semble pas avoir été posée, c'est celle de l'élevage des animaux en batterie, des animaux domestiques en batterie, qu'il s'agisse de bovins, de porcs ou de volailles. Si vous voulez, quand on entend des publicités à la radio en particulier, mais pas seulement, moi c'est pas la télé, hein, qui indique que 80% de la viande consommée en France provient d'élevage en batterie, quand on sait les conditions dans lesquelles les animaux vivent, c'est tout à fait insupportable. Beaucoup de Français mangent de la viande, il n'y a pas de problème, hein, simplement. Les animaux qui sont élevés dans ces conditions-là ne peuvent pas être des animaux qui vivent normalement d'une part et dont la viande est de bonne qualité, d'autant plus que pour accumuler des animaux dans un espace réduit, il faut les doper entre guillemets avec des antibiotiques que l'on retrouve ensuite dans nos assiettes, n'est-ce pas? Et l'avis des résultats que chacun maintenant doit connaître, c'est-à-dire en fait le fait que les microbes sont résistants à de multiples antibiotiques et qu'il y a une course effrénée à des molécules de plus en plus toxiques. Il me semble donc que questions-là sont fondamentales.
Merci beaucoup Gérard pour cette question. Et si je peux me permettre, on va enchaîner avec Stéphane qui nous pose aussi une question sur le même sujet. Bonsoir Stéphane. Vous êtes où, vous, dans le Calvados, c'est ça?
Oui, merci. Bonsoir. Merci de prendre votre
question. Mais je vous en prie, vous êtes éleveur de volailles?
Voilà, je suis paysan éleveur de volailles. Et on parle de bien-être animal, effectivement, des animaux d'élevage. Et sous prétexte d'influenza aviaire, prochainement en France, toutes les volailles seront confinées 9 mois sur 12, parce qu'il y a une grosse pression du lobbying industriel et de la filière, notamment gras, dans le sud-ouest. Voilà. Et donc, voilà, les volailles seront confinées. Elles auront toujours l'appellation volaille plein air, mais seront des volailles confinées 9 mois sur 12. Donc là, le bien-être animal, c'est impossible de faire du bien-être animal, d'élever des volailles dans ces conditions. Les volailles, leur milieu naturel, c'est l'extérieur, c'est le parc, c'est voilà, passent leur journée à chercher de la nourriture dehors. Donc clairement, il n'y a plus de bien-être animal dans ces histoires-là.
Merci beaucoup Stéphane. Loïc Dombreval, l'élevage n'est pas dans votre proposition de loi, mais il faut quand même absolument répondre à Gérard et à Stéphane sur cette question.
Oui, je partage leur avis. Et je l'ai toujours dit très clairement, il y a une question qui se pose véritablement sur l'élevage intensif. Une vraie question. L'accumulation d'animaux, l'entassement d'animaux, génétiquement extrêmement proches, fait que ces élevages, au-delà même de la question du bien-être animal, auquel encore une fois certains ne sont pas attachés, mais posent de vrais problèmes pour la santé de l'homme lui-même. On l'a vu par exemple sur la crise de la Covid avec les élevages de visons. On le voit aujourd'hui avec des virus qui commencent à muter au sein de ces élevages industriels, à passer à l'éleveur ou à de la population qui se trouve autour, à ne pas être pathogène pour l'instant pour l'homme, mais pour elle devenir.
Je précise que vous êtes vétérinaire de formation, Loïc Dombreval. Non, oui. Mais je ne sais pas si je l'ai dit, donc je le dis et j'en profite. Voilà.
C'est une vraie question. La crise de la Covid doit nous alerter là-dessus, de façon générale d'ailleurs sur la relation qu'on entretient avec l'environnement, avec la nature sauvage, et je te prends l'animal sauvage et je te le mets au contact de l'animal domestique sur le marché, et ensuite je te mets ça au contact des gens, et puis paf, et puis on a la Covid. Et les élevages intensifs, c'est exactement le même problème. Est-ce qu'on peut continuer à accepter d'élever des millions et des millions d'animaux, et puis quand tout d'un coup, quand il y a un virus qui traîne là-dedans et puis qui est explosif, forcément, ces animaux sont les uns sur les autres, et se ressemblent tous génétiquement, eh bien on les abat par millions. C'est ça aujourd'hui la façon avec laquelle on fait. Et moi, je pense que on doit interroger absolument ce modèle. Par contre, évidemment, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. C'est absolument impossible. On a imposé ce modèle nous-mêmes politique. C'est pas moi, je n'étais pas né, mais à l'après-guerre, en disant aux éleveurs, s'il vous plaît, produisez plus. Il faut nourrir la France. Produisez plus, c'est encore plus et plus et moins cher et plus vite. C'est ça qu'on a imposé. Et donc, si on veut revenir à un modèle qui est un modèle plus respectueux de l'animal, plus respectueux de l'être humain aussi, et de la planète, eh bien, il faut forcément prendre un petit peu de temps pour cela.
Vous avez évoqué très brièvement les élevages de visons. Ça figure dans votre proposition de loi,
oui.
Loïc Dombreval. En tout cas, ceux qui, pour leur fourrure, oui. Interdiction. C'est prévu, ça.
Et je militais pour une interdiction immédiate. Et figurez-vous que les sénateurs, et je les remercie pour ça, ont réussi à le voter en première lecture. Interdiction immédiate, et donc on va se baser sur cette interdiction immédiate dans les débats qui auront lieu à la fin de l'année.
Muriel Arnal, sur la question de ces élevages.
Sur la question de ces élevages, il y a deux poids, deux mesures en France, parce que les chasseurs qui utilisent des aplans, c'est-à-dire des animaux vivants, des canards vivants, pour aller chasser en baie de Somme et attirer d'autres canards et les tuer, eux n'ont pas les mêmes restrictions, ou alors ne les respectent pas et on les laisse tranquilles. Donc c'est vrai que malheureusement, il y a encore ces problèmes-là dans notre pays. Par rapport aux élevages de visons, en 2016, il y en avait 11. Il n'en reste plus aujourd'hui que 2. Donc c'était dans la logique des choses. Nous aurions aimé que ça aille plus vite avant même la proposition de loi, c'est-à-dire que le gouvernement soit responsable par rapport notamment à la diffusion du Covid. Mais c'est un symbole fort parce qu'il ne s'agit pas que des élevages de visons. Nous avions demandé que tous les animaux sauvages qui peuvent être élevés pour leur fourrure, soit ne puissent pas être élevés en France. Et c'est cette interdiction-là qui a été obtenue et nous en sommes très heureux. Plus aucun animal sauvage ne peut être élevé pour sa fourrure en France une fois que ça sera voté.
Merci beaucoup. On va prendre un appel qui nous vient de Loire-Atlantique. Martin Boy, je ne sais pas exactement comment ça se prononce.
Martin Boy, bonjour.
Voilà, bonjour. Directeur scientifique, me dit-on, du parc animalier Planète Sauvage. Vous aviez peut-être une question ou une réaction ?
Oui, bah déjà, je salue Loïc Dombreval et Muriel Arnal, avec qui on a pu échanger en différentes occasions, avec qui on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais avec qui on a pu discuter. Et je voulais simplement dire que globalement, cette loi qui lutte contre la maltraitance animale, c'est une bonne chose. J'aurais bien aimé qu'elle s'appelle pour promouvoir le bien-être animal, que le chantier est énorme. Et nous, concernant nous, à Planète Sauvage, donc c'est un parc zoologique, je suis directeur scientifique, et on est un des deux parcs possédant des dauphins, ayant des dauphins et les présentant. Et en fait, dans tout ce débat, c'est un sujet très complexe, on ne pourra pas en parler là en longueur, mais en gros, ce qui semble être le cas, et peut-être que Monsieur Loïc Dombreval peut m'éclairer, il me semble que donc, pour les dauphins, effectivement, delphinarium fin sous 5 ans, sans qu'on sache vraiment ce que pourraient devenir les animaux, par contre avec la possibilité de les conserver dans des structures à caractère zoologique, dans un but scientifique. Donc en gros, ma question c'est plutôt, est-ce que ça ne ramène pas les dauphins dans le giron des animaux de parc zoologique avec les missions recherche, conservation et éducation?
Merci beaucoup pour cette question, Loïc Dombreval.
Martin Boy, que je salue également, dit exactement le point, c'est-à-dire qu'on interdit la présence d'orques et de dauphins sous 5 ans, sauf à ce que la structure mette en œuvre des programmes d'études validés par l'État français, labellisés par l'État français, permettant de mieux connaître ces animaux. Pourquoi pas, par exemple, réfléchir à la question qui préoccupe nos côtes avec ces échouages massifs. Peut-être qu'il y a des études à monter intéressantes scientifiquement. Voilà. Donc, sous 5 ans, seuls pourront continuer ceux qui mettent en œuvre ces études scientifiques validées par l'enseignement supérieur et la recherche, l'environnement, le ministère de la Mer, etc.
Il y a plein de questions qui nous arrivent encore ce soir. Beaucoup trop de questions pour qu'on puisse répondre à toutes. Notamment Nathan qui est vétérinaire et qui nous dit « Je suis étonné de ne toujours pas avoir d'encadrement de la reproduction des animaux de compagnie ». Je voudrais, Loïc Dombreval, si c'était possible, qu'on termine sur les animaux de compagnie parce qu'il va y avoir une nouveauté avec votre proposition de loi. C'est ce fameux certificat de connaissance avant l'acquisition d'un animal de compagnie. C'est quoi exactement? C'est pas un permis? C'est...
Non, d'abord c'est gratuit.
Oui.
Ça doit être simple. Et ça doit...
On doit se procurer ce certificat, c'est quoi? C'est
pour... On va devoir...
Pour un minimum de connaissances?
Ceux qui vont vendre l'animal ou le céder devront s'assurer que la personne, que l'acquérant, a un minimum de connaissances. Et moi, je vois des gens, des femmes âgées qui parfois vivent au cinquième étage sans ascenseur et qui ont peur d'être seules et qui prennent des chiens qui sont des molosses. Enfin, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Ça pose plein de problèmes. Plein de problèmes. Et donc, il faut que... Il existe un minimum de connaissances entre l'acquérant et l'animal. Et pour éviter de la maltraitance par négligence parfois, voire de l'abandon.
Voilà, on va terminer là-dessus. Muriel Arnal, c'est une bonne chose. Et vous avez quoi? 10 secondes, hein? Pas plus, malheureusement, pour me dire ce que vous en pensez de ce certificat.
C'est une bonne chose, le certificat. Pour les delphinariums, nous aurions aimé qu'il n'y ait pas de possibilité d'étude parce qu'on va étudier dans les bassins les animaux captifs, mais pas, on ne va rien apprendre sur les animaux sauvages. Je comprends Planète Sauvage qui nous fait un procès et demande 100 000 euros parce qu'il y a une diminution des touristes qui vont voir les dauphins, mais ce n'est pas de notre fait, c'est la société qui évolue. Et nous accompagnons ce mouvement.
Je suis obligée de vous couper. Ben, je crois que ça s'est coupé tout seul. Là, pour le coup, je n'y étais pour rien. Merci beaucoup, Muriel Arnal. Merci mille fois, Loïc Dombreval, d'être venu ce soir. Je suis en retard. Bonsoir, Patricia Martin.
Bonsoir.
L'heure philo, juste après 20h.
Avec Gaspard Koenig, on va parler de Montaigne et probablement aussi de la condition animale.
Ah oui, parce qu'il vient de faire un tour d'Europe à cheval. Ben voilà, ça sera l'occasion d'en parler.